Bonjour à tous. En ce moment, vous savez, je suis en plein préparatif pour le déménagement sur Albi. Et alors que je réfléchissais à ce qu'on allait voir ce soir, il y a une question qui m'est vraiment venue. Peut-être que mes circonstances personnelles m'ont aidé. Es-tu prêt à partir ? Es-tu prêt à partir ? J'aimerais qu'on puisse lire en introduction, et c'est d'ailleurs le texte, je ferai une petite analyse sur un exemple, mais c'est vraiment le texte qui est sur mon cœur, c'est dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est le texte, si le temps le permet, que nous relirons à la fin du message. Parce que tout est là. 2 Corinthiens, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, il parle entre autres de notre corps. Nous sommes dans un corps qui va rester là. Et c'est une tente. Une tente, c'est mobile. Hein. Je le dis exprès. Dans le ciel, c'est un édifice, c'est une maison en dur qui nous attend. C'est un corps qu'on aura pour l'éternité. Je reprends le texte. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Amen. Je ne sais pas si cette nouvelle vous réjouit, mais on va tous déménager. On va tous déménager. Et j'aimerais baser, c'est le texte, on va dire que ce que nous venons de lire, c'est la théorie. Et je vais prendre un exemple, une histoire sur laquelle les quelques commentaires vont nous aider peut-être à comprendre. Et on va parler de la naissance de Jésus, de ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Et pour cela, je ne vais pas lire le texte là parce que ça va être trop long, le temps ne nous permettrait pas, mais je vais citer quelques morceaux choisis. Et on va voir quand même que le Seigneur, dans cette histoire, par rapport à l'arrivée du Seigneur, il y a différentes personnes et différents mouvements. Il y en a qui bougent, il y en a qui ne bougent pas. Il y a des étrangers qui bougent, et il y a des juifs qui bougent, il y a des étrangers qui ne bougent pas, et des juifs qui ne bougent pas. C'est intéressant dans toute cette histoire. Regardons un peu de plus près. Alors, Matthieu, chapitre 1er, on ne va pas faire les lectures, mais quelques versets comme ça choisis. Matthieu, chapitre 1er, tout l'exemple se situe entre le verset 18 du premier chapitre et le chapitre Dieu en entier. On peut lire juste le verset 18, au début du verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Et avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Je lis ça d'abord parce que pour qu'on comprenne, et là je fais peut-être référence encore à une prédication que j'ai apportée il n'y a pas longtemps sur le fait que quand le Seigneur Jésus arrive dans la vie de Joseph et de Marie, ils vont connaître une vie complètement différente. Leur vie va être complètement chamboulée. Et ils vont apprendre à se consacrer, mais une consécration joyeuse, en tant que parents. Ils ont une vie, et là, ici, c'est le Seigneur Jésus. Et pour tout chrétien qui réalise ce qu'a fait le Seigneur Jésus sur la croix du calvaire, tout chrétien qui naît de nouveau voit en son sein une nouvelle vie qui commence. Et ainsi, le chrétien va avoir à cœur, mais d'une manière joyeuse, de se consacrer à cette nouvelle vie qui est là en lui et qui commence et qui est appelée à se développer. Et les parents de Jésus ont une grande responsabilité que de veiller sur le petit bébé qui va naître. Un bébé a besoin de protection, il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le nourrisse, etc. Et le Seigneur Jésus, quand il est né, charnellement, ses parents ont réalisé justement cette tâche. Ils se sont occupés de lui, ils se sont consacrés à lui. Et cette consécration joyeuse, on voit que Joseph comme Marie avaient dans leur cœur ce désir d'obéir, sans sourciller. Et on va voir au début, ils vont être amenés à bouger. Ils vivaient où à l'origine ? Il vivait dans la région de Nazareth. Au moment où il va y avoir ce recensement, ils vont devoir déjà partir direction Bethléem. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'origine de Bethléem. Donc, pour le recensement, ils vont partir. Marie est enceinte, on ne sait pas de quel mois, mais bon, elle est bien enceinte, je pense. Parce qu'elle va accoucher à Bethléem, mais elle va faire le voyage à Dodan. Ils vont bouger. Ils vont bouger. Et Jésus est bien né à Bethléem. Si vous regardez la fin du chapitre 2, on voit que Joseph va être averti par un ange sur le fait qu'il faille encore bouger. Pourquoi ? Parce que Hérode en veut à la vie du Seigneur et il va être protégé. Que dit l'ange ? On peut regarder juste ce texte pour vérifier quand même. Matthieu, chapitre 2, verset 13. « Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant. » Et ils vont partir, ils se lèvent, ils quittent leur maison, et ils vont partir en Égypte. Une fois que Hérode va mourir, et que tous ceux qui en voulaient au Seigneur ne seront plus là, l'ange va à nouveau intervenir, il va dire à Joseph, on peut le lire, ici, verset 19, « Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. » Verset 21, « Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. » Donc les parents de Jésus, en bon chrétien aussi, pour ça il y a un petit parallèle, quand Dieu dit quelque chose, ils ne cherchent pas à questionner, ils ne sont pas à dire « mais pourquoi ?» et ceci, cela, ils obéissent. Et quand Dieu dit « tu bouges », eh bien, ils bougent. Et quand Dieu dit « tu restes là », eh bien, ils restent là. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Et ici, dans cette situation, on voit quand même que Joseph, comme Marie, eh bien, ils sont l'image des chrétiens qui sont, parce qu'à travers la vie que mènent Marie et Joseph, dans tout ce petit voyage, le but est de protéger le Seigneur. Ils vont bouger pour qu'il soit protégé. Et finalement, un chrétien qui se convertit, il doit faire attention aussi à protéger, entre guillemets, cette petite vie qui est en train de naître. Cette nouvelle naissance, eh bien, elle n'est pas grande au début. Elle va grandir parce qu'il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Un jeune chrétien né de nouveau est un bébé spirituel et il a besoin de lait, comme l'écrit les apôtres. Et il ne peut pas grandir facilement. Il a besoin d'être nourri d'une certaine manière. Une fois qu'il est un peu plus grand, il est affermi, il peut se nourrir d'autres choses. Cette vie, elle grandit et elle se développe. Et ici, on est amené à faire attention, nous qui sommes chrétiens, qui avons compris ce que le Seigneur avait fait pour nous, qui connaissons cette nouvelle vie, à la chérir, à faire en sorte qu'elle puisse grandir. Cette consécration que le Seigneur nous appelle à avoir. Ici, ceux qui bougent, ils sont l'image de chrétiens, tout simplement, qui ont fait une expérience et qui se consacrent. Et qui se consacre vraiment. Marie comme Joseph, finalement, le Seigneur, c'était le but de leur vie. C'était le but de leur vie. Et ils étaient entièrement soumis à Dieu. Et cette consécration, eh bien, elle est joyeuse, ça leur a coûté. Mais en même temps, on peut aussi imaginer que Joseph et Marie, ce sont des parents bénis quand même, je pense. Que de souvenirs ont-ils emporté les premières paroles de Jésus, ses premiers pas? C'est eux qui l'ont vu, ça. Ils l'ont vu, ça. Et que de souvenirs. Moi, je me fais des films, vous savez, des fois, et puis des fois, je m'imagine Joseph en train de, sous le cagnard, pas toulousain, mais sous le cagnard d'Israël, en train de faire ses charpentes, et puis vraiment, il a soif. Et d'un seul coup, il entend une voix. Hey, papa, tu veux pas de l'eau? J'en ai amené un verre d'eau froide. Un verre d'eau fraîche. Joseph, peut-être, avait soif à ce moment-là. Et Jésus, il a été peut-être ce petit enfant qui était prêt à donner ce petit verre d'eau à son père. Hey, « Eh papa, j'ai le verre d'eau, là. Tu sers-toi. » C'est peut-être un autre moment où Marie était fatiguée du travail et puis Jésus était là pour l'aider dans les tâches de la maison, toujours prêt à être au service. Ça ne peut pas être autrement. Le Seigneur, quand il était petit, c'était quelqu'un qui était prêt à servir. Il est venu pour ça. Imaginons juste tous les souvenirs qu'avaient Joseph et Marie. Ils se sont consacrés à cette vie. Mais cette vie qui a grandi, le leur aura bien rendu après. Ils sont repartis avec plein de souvenirs. Quand on lit des paroles comme à la fin du chapitre 2, on peut le lire, hein. C'est dans l'évangile de Luc. C'est écrit plusieurs fois dans l'évangile de Luc où on voit que Marie prenait soin de faire quoi? De se souvenir. Donc on imagine très bien que de l'enfance de Jésus, Joseph et Marie en avaient des souvenirs à raconter. Ils en avaient des histoires certainement à raconter sur l'enfance même du Seigneur. Verset 52. Du chapitre 2 de l'évangile de Luc, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et tous les hommes, et c'est juste avant, sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Ils ont eu des souvenirs. La consécration qu'ils avaient pour le Seigneur, eh bien, c'est une consécration joyeuse, mais j'aimerais qu'on puisse réaliser encore ce soir que c'est un vrai bonheur que de consacrer notre vie au Seigneur. C'est un vrai bonheur que dans notre vie de tous les jours, eh bien, on puisse se soucier d'être agréable à Dieu. Et c'est là qu'on commence à expérimenter ce Dieu qui est notre Père Céleste, ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui nous entoure, ce Dieu qui est plein de bienveillance envers nous tous. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15, je vous le cite, pour montrer quand même que c'est important. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous sommes appelés à nous consacrer, mes frères et sœurs. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. ce besoin-là de consécration, il est bien présent et c'est un devoir, mais c'est aussi une joie. Dieu nous rend, même sur cette terre, et on sait que dans le ciel, ce sera encore autre chose, mais même sur cette terre, le Seigneur nous fait grâce. Et cette consécration, ça nous bénit. Ça nous bénit. J'aimerais qu'on puisse réaliser à quel point c'est important. En tout cas, Joseph et Marie, ce sont des personnes qui étaient prêtes, au moment voulu, à obéir à Dieu. Et ils savaient aussi que quand il fallait plier, ils pliaient et ils partaient. Donc eux, ce sont les Juifs qui bougent. Dans cette affaire, Matthieu chapitre 2, il y en a d'autres qui bougent. Ce sont les mages, et ce sont des étrangers. Et eux, ils bougent aussi pas mal. Les mages, ils viennent pour quelque chose. Ils viennent pour adorer. Les mages, ils ont reçu quelque chose. Ça venait du Seigneur, c'est sûr. Sinon, ils n'auraient pas fait tout ce parcours. Ils avaient reçu certainement une promesse que quand ils verraient une étoile, eh bien, ça signifierait qu'un sauveur viendrait dans le monde. Et si Dieu leur a donné cette promesse, c'est aussi certainement dans leur cœur, ils attendaient quelque chose. Et ils attendaient vraiment. Et ces mages, au minimum, ils ont parcouru 2000 kilomètres pour venir. Ils sont pas venus du village d'à côté. Ils ont parcouru. Ces mages, en plus, ce sont des mages qui représentent le pays dans lequel ils viennent. Ils sont pas venus qu'à deux ou trois, ou quatre, parce que ils sont pas forcément trois, hein, la Bible ne dit pas. Ils avaient tout un accompagnement. On peut imaginer très certainement la caravane avec les chameaux, les dromadaires, tout ce que vous voulez. Bref, c'était pas un petit voyage. Mais la promesse qu'ils avaient reçue, elle était forte dans leur cœur. Ils voulaient voir le Sauveur. Ils voulaient voir le roi des Juifs. Et ils étaient prêts à tout. Alors, dans l'histoire, c'est intéressant parce que finalement, ils vont aller de déconvenu en déconvenu, les mages. Vous savez, qui était le roi des Juifs de l'époque ? Hérode. Hérode, c'était le roi des Juifs. Donc si un roi des Juifs devait naître, où est-ce qu'il devait le trouver, logiquement ? Dans la famille d'Hérode. Donc les mages, logiquement, ils vont où ? Ben, ils vont voir Hérode. Ils vont voir Hérode. Et là, il y a un problème. Parce que visiblement, en Israël, personne n'est au courant de la naissance du successeur. On se rappelle, au Royaume-Uni, l'effet que ça fait quand même, la naissance du prince. On voit les assiettes colorées au pays, on voit le visage du bébé, on voit tout ça. Il y a une effervescence incroyable quand il y a la naissance du prince. En Israël, c'était tout l'opposé. Au point que tout le monde a été troublé. Et vous savez, le mot d'origine, ce mot fut troublé. Quand on lit le texte, chapitre 2 de Matthieu, il est dit qu'à l'arrivée des mages, au verset 2, ils dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ce mot-là fut troublé, nous on l'a en français, mais quand on regarde le mot d'origine, le mot grec d'origine, il est présent à chaque fois après une révélation divine. Par exemple, Zacharie, quand l'ange lui est apparu, il a été troublé. Les disciples, quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont été troublés. Même Jésus fut troublé dans son esprit quand il a reçu cette pensée que Judas allait le trahir. C'est le même mot qui est utilisé. Une révélation divine qui est là, qui fait qu'il y a un grand trouble qui est là. Et la nouvelle qu'amène les mages provoque un séisme dans la ville. Un vrai séisme. Ça fait du bruit. Vraiment, ça fait du bruit. Parce que personne ne s'y attendait. Alors que pourtant, ils attendaient le Messie. Donc, il serait arrivé. On peut imaginer après ce que ça a provoqué. Le Messie, celui qui va nous délivrer des Romains, il est né, parce que c'est ce qu'ils pensaient. Le Messie, c'était celui qui allait délivrer Israël de l'oppresseur romain. C'est là où les Juifs étaient à côté. Ils ne se sont pas rendus compte. Et ces mages, à l'inverse, ils ont été très surpris. Premier rendez-vous avec Hérode, pas au courant, personne au courant. Alors ils renvoient les mages. Pendant ce temps-là, il s'inquiète. Mais au fait, c'est quoi cette affaire-là ? Alors, il demande aux Juifs. Allez regarder, il doit naître où, le roi des Juifs ? Hérode, lui, il commençait à craindre pour lui. Alors, les Juifs se renseignent. Ah, mais il le savait bien, parce qu'il connaissait l'écriture par cœur. Eh bien, il doit naître à Bethléem, le roi des Juifs. Alors, Hérode rappelle les mages. Deuxième rendez-vous. Allez voir à Bethléem pour voir. Et montrez-moi où il est, comme ça j'irai l'adorer aussi. Ces mages vont persévérer. Et au moment où ils ressortent du palais, paf, l'étoile qui revient, qui réapparaît. Ils sont encouragés. Ils sont heureux malgré les déconvenues qu'ils ont connues. Ils se sont attachés à la promesse qu'ils avaient reçue. Ils ont persévéré dans ce que Dieu leur avait dit. Et dans cette persévérance, eh bien, Dieu va les accompagner, va les garder. Et ils vont arriver à Bethléem. Peut-être qu'ils pensaient trouver le royal bébé dans une grande maison. Et malheureusement, ils vont... Malheureusement. C'est juste qu'ils vont être grandement surpris quand ils vont découvrir que le roi des Juifs, il vit dans une toute petite maison d'un simple artisan qui gagne certainement pas beaucoup sa vie. Ils vont de déconvenu en déconvenu et pourtant, eh bien, ils sont l'image, vraiment. À la fin, au verset 11 du chapitre 2 de Matthieu, quand il est question des mages qui se prosternent, là aussi c'est très intéressant, parce que le mot d'origine nous montre qu'il apparaît que deux fois dans tout le livre de la parole de Dieu, et il n'apparaît qu'au moment où dans le ciel, tout le monde se prosterne. Autrement dit, les mages, la manière dont ils se prosternent, c'est une manière quelque part qui est céleste. Et ils sont l'image finalement des chrétiens qui attendent vraiment le Seigneur, qui attendent de le voir, qui attendent de se pouvoir se prosterner devant lui, de pouvoir l'adorer. Des chrétiens qui attendent le Seigneur. J'aimerais poser la question ce soir, qui attend le Seigneur? Qui attend le Seigneur? Qui serait prêt à aller faire même des efforts pour... L'apôtre Pierre a dit, faites tous vos efforts pour... C'est pas antibiblique ce que je dis. Oui, c'est le Seigneur qui agit. C'est lui qui fait qu'on va se sanctifier, mais il y aura quand même cette volonté. Les mages, les plus de 2000 kilomètres, ils les ont bien parcourus. Qui attend? Ils persévéraient dans ce qu'ils avaient reçu. Et finalement, ils ont été récompensés. Les mages, ils attendaient Jésus. Ils étaient déterminés à trouver Jésus, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les difficultés. Quand ils sont allés de leur première déconvenue avec Hérode, de ce premier rendez-vous qui visiblement n'a pas fonctionné, ils ne sont pas repartis, ils sont restés. Ils ne savaient pas si Hérode allait les rappeler. Ils sont restés, parce qu'ils se disaient, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc ils ont attendu, ils ont persévéré. Et ces mages, ils ont adoré le Seigneur, et ils l'ont glorifié, mais d'une manière particulière. Et c'est aussi ce qui est prévu pour ceux qui attendent le Seigneur. Un jour, ils auront la grâce de pouvoir l'adorer, se prosterner devant lui tel qu'il est. On sera dans le ciel et le Seigneur, il nous regarde, il voit si oui ou non. Est-ce que nous l'attendons? Est-ce que nous l'attendons? On voit que ceux qui étaient prêts à se déplacer, eh bien, ce sont des personnes qui attendaient vraiment le Seigneur. Ce sont des personnes qui voulaient le voir, qui voulaient vivre quelque chose avec Dieu. À l'inverse, dans toute cette histoire, il y a deux catégories de personnes qui, eux, vont pas bouger. Alors maintenant qu'on a un peu discuté, vous savez lesquelles sont. La première personne qui ne bouge pas, c'est Hérode. Lui, il n'est pas juif, mais il ne bouge pas. C'est celui qui croit « mais ». C'est quelqu'un qui se soucie surtout de lui. C'est quelqu'un qui se soucie surtout de profiter des choses de ce monde. C'est quelqu'un qui se soucie surtout de tout ramener à lui, de profiter un max, comme on dit. Et les dégâts collatéraux, peu importe. Ça, c'était Hérode. Il voulait croquer la vie à pleines dents. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de profiter, de sortir, de se détendre. C'est pas ça que je dis. Mais Hérode, c'était quelqu'un qui était attiré par les choses de ce monde. C'était quelqu'un qui voulait être grand, quelqu'un qui voulait être puissant, quelqu'un qui voulait avoir cette autorité, quelqu'un qui voulait régner, quelqu'un qui voulait être le roi. Il voulait être le roi. Donc forcément, la naissance d'un autre roi a posé problème pour lui. Un vrai problème de conscience. S'il vraiment il existait, il fallait l'éliminer. Hérode, c'est assez intéressant parce que quand les mages viennent, il a la foi. Je vous surprends peut-être. Mais il a cru tout de suite qu'un vrai roi était né. Il y a cru sur le champ, il y a cru. Comme quoi, le problème de la foi, il y a un verset qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. » Et il tremble. Hérode, il tremblait. Hérode, il tremblait. Hérode, il a cru à cette parole. Il a cru à cette révélation que les mages ont apportée. Il y a cru de tout son cœur, mais il était préoccupé surtout de son plaisir personnel. Il y en a qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils le délaissent, ils le méprisent. Ils y croient, ils disent qu'ils y croient. Ils savent que c'est la vérité. Et pourtant, ils vont à droite, ils vont à gauche. Ils vont de plaisir en plaisir. Ils savent où est le chemin, mais ils n'y marchent pas. Ça, c'est Hérode. Et c'est tous les chrétiens qui, malheureusement, ne bougent pas. Et ces chrétiens qui ne bougent pas, ce sont ceux qui ne sont pas prêts. Le jour où le moment arrivera, ils ne sont pas prêts. Ces chrétiens qui, de leur vie durant, s'inquiètent toujours des choses de ce monde plutôt que de s'inquiéter des choses de Dieu. Le Seigneur a dit lui-même, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, celui qui est né de nouveau à l'image de Marie et de Joseph qui ont cette vie en eux qui commence, ils doivent se consacrer. Il nous faut nous consacrer. Hérode, lui, ce qui l'intéressait, c'était le plaisir de ce monde. Dans ce deuxième rendez-vous, on va voir que, non, dans le premier, on voit aussi qu'il y a une autre catégorie de personnes qui ne bougent pas. Ce sont les Juifs, les docteurs de la loi, les scribes. Vous savez, Bethléem, c'est pas très loin de Jérusalem, c'est 11-12 kilomètres. On a des mages qui ont fait plus de 2000, et les premiers concernés, ils bougent même pas le petit doigt, on peut le dire. Les Juifs, ils connaissaient la parole, il y a quelqu'un qui dit que le roi des Juifs est né, et ils vont même pas voir. Ils vont même pas voir. Ce sont ceux qui, en plus, les sacrificateurs, les scribes, les docteurs de la loi, ils vivaient pour Dieu. Ils vivaient pour Dieu. Vraiment. Ils connaissaient la loi par cœur. Leur vie, d'un point de vue extérieur, était consacrée à Dieu. C'était une adoration à Dieu. Et pourtant, ils n'ont pas bougé le petit doigt. Ils étaient aveuglés. Ils étaient pétris d'orgueil. Ils étaient dans leur système religieux. Ils étaient dans leur idée. Mais non, c'est pas possible. Ils étaient complètement aveuglés. Et malgré l'annonce, malgré la révélation, ils n'ont pas voulu vérifier. Ils n'ont pas voulu imaginer une seule seconde qu'ils s'étaient trompés. Ils n'ont pas bougé. Et ils sont l'image de tous ces chrétiens qui ont leur système religieux. Leur cadre qu'ils se sont eux-mêmes fait, parce que la parole de Dieu nous donne un cadre. On a un cadre. Mais à un moment donné, quand il y a quelque chose qui commence à déranger, on rejette. Donc le cadre, on le biaise un peu. Et on commence à mettre Dieu dans une boîte. On dit qu'on aime Dieu, mais en fait, on aime le Dieu que nous nous sommes fabriqués. Une idole. Et les Juifs, ils aimaient ce Dieu-là. Ce Dieu qui n'aimait pas. Dieu aime les hommes, il est amour. Mais les Juifs, ils n'avaient pas d'amour dans leur cœur. Dans la loi de Dieu, ils ont voulu exercer la justice outre mesure, quitte à ce que l'amour ne soit pas là, sauf que Dieu est amour. La justice de Dieu doit toujours s'exercer dans l'amour. Et les Juifs ne l'avaient pas compris, et ils n'ont pas bougé le petit doigt. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à partir. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas su interpréter les événements, les signes que le Seigneur avait donnés à travers les prophètes. Ils n'ont pas su, ils n'ont pas compris Ésaïe 53. Ils n'ont pas compris ces choses parce qu'ils étaient aveuglés, parce que leur cœur n'était pas tourné vers Dieu. À l'intérieur, ça n'allait pas du tout. Finalement, les Juifs n'étaient pas intéressés par le Messie. Ils n'étaient pas intéressés. Parce que ça voulait dire que, et on l'a vu, on le voit, quand Jésus les reprend, on le voit, quand Jésus leur fait face, que finalement, ils préféraient, parce qu'ils avaient bien compris qui était Jésus, mais ils préféraient leur système. ils préféraient ne pas avoir à dire aux autres qu'ils s'étaient trompés. Ils ne préféraient pas reconnaître que dans leur cœur, il y avait de l'orgueil, il y avait du légalisme, il y avait toutes ces choses. Ils préféraient rester dans leur erreur, quand bien même ils savaient que Jésus était le Messie, plutôt que de dire à tous ceux qui étaient présents qu'ils étaient sur la mauvaise voie. Ils n'ont pas voulu reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Et ça, c'est malheureux à dire. Mais il y en a des chrétiens comme ça. Des chrétiens qui, finalement, n'arriveront jamais à saisir la grâce de Dieu parce qu'ils ne voudront pas que les autres sachent que, dans leur vie, à un moment donné, ils ont fait une erreur. On a tous fait des erreurs. Il n'y a pas de honte à faire des erreurs, parce qu'on en fait tous. Quand on commence à se dire « je veux que les autres pensent que je ne fais jamais d'erreur », ça craint, malheureusement. Ça craint. Donc, dans ce passage, finalement, on voit quoi ? On voit qu'il y a des personnes qui étaient mobiles et d'autres qui étaient immobiles. Le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est mobile. C'est quelqu'un qui a conscience que sur cette terre, il est de passage. C'est quelqu'un qui a compris que la réalité, ce n'est pas les choses visibles, c'est les choses invisibles. La réalité, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce que la terre ici peut nous donner. La terre et tout ce qu'elle renferme seront détruites. On ne pourra rien emporter. Par contre, la vraie réalité, elle est dans le ciel. S'il y a des trésors à amasser, ce n'est pas sur cette terre. On fait une fausse route. C'est dans le ciel. Et ce que je vous dis, c'est biblique. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où personne ne vient ronger. Paraphrase, mais c'est ça que dit Jésus. Revenons à ce que nous avons lu. 2 Corinthiens. Et je vais terminer. 2 Corinthiens. Chapitre 5. Il y a des paroles très fortes quand même. Verset 4. L'apôtre Paul écrit « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. » Comment je vis ma vie sur cette terre ? Est-ce que vraiment j'aspire de tout mon cœur au jour où le Seigneur reviendra me chercher ? En d'autres mots, est-ce que je suis prêt à partir ? Est-ce que je suis prêt au grand déménagement ? Un jour, ce jour viendra. Et on a vu encore récemment, si on commence à parler des prophéties, sans parler de la mort, le Seigneur Jésus revient très bientôt. Mais au même titre qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure de la venue du Seigneur, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre mort. Est-ce que je suis prêt ? Un vrai chrétien, un chrétien authentique, il est prêt. La mort ne lui fait pas peur. Et comme on l'a chanté, il est prêt à passer de l'autre bord quand le Seigneur l'aura décidé. Et dans son cœur, il y a une paix de Dieu. Est-ce que dans ton cœur, il y a cette paix ? Est-ce que dans ton cœur, tu es prêt à partir ? Est-ce que le jour où le Seigneur reviendra, tu as cette certitude que tu iras avec ceux qui lui ont consacré leur vie ? Ou est-ce que tu ne sais pas et tu te dis bah, « je vais peut-être rester là ». J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Dans quel cas de figure tu te situes ? J'aimerais faire un court appel. Est-ce que tu fais partie de ceux qui s'attachent à ces choses périssables de ce monde ? Et que même si tu sais que la parole de Dieu, c'est la vérité, tu préfères t'en détourner à l'image d'Hérode. Est-ce que, à l'image des Juifs, tu t'es forgé une vie chrétienne bien à toi ? Mais quand Dieu te fait un reproche, tu ne l'écoutes pas. Ou est-ce que, à l'image de Marie et Joseph, tu réalises peut-être aussi que ta consécration n'est pas dans la joie ? D'ailleurs, est-ce que tu te consacres ? Tu as fait la paix avec Dieu, tu as réalisé qu'il était mort sur la croix pour toi, mais tu n'es pas consacré. Tu n'avais peut-être pas compris que le vrai bonheur, il est dans la consécration. Le vrai bonheur, il est dans la consécration. Dans celui qui réalise à quel point s'il y a une chose à chérir, c'est cette vie spirituelle qui se développe suite à la nouvelle naissance. Ne néglige pas ces choses. Qui ce soir voudrait demander à Dieu pardon pour la négligence ou du secours, quelle que soit votre prière suite à cette prédication? Parce que quand on n'a pas réalisé l'importance de ces choses, c'est beaucoup plus difficile de se consacrer. On va prier pour que le Seigneur éclaire vos yeux spirituels, que vous compreniez à quel point c'est important. Oui, il n'y a pas de plus grand bonheur. Les plus beaux souvenirs que vous aurez de votre vie sur cette terre, ce seront des souvenirs qui sont liés à un service que vous avez fait pour le Seigneur. Comme Marie, comme Joseph, ils ont vu mourir leur fils adoptif quand il est allé sur la croix, mais ils avaient quand même tout un paquet de souvenirs. C'était un trésor pour eux. Et la consécration, eh bien, c'est un vrai trésor. Peut-être que tout simplement, dans ton cœur, tu veux juste, Seigneur, oui, aide-moi, je veux me consacrer vraiment. Je veux m'approcher de toi, je veux être utile entre tes mains, je veux être un outil disponible pour faire ce que tu veux. Seigneur, aide-moi.